Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur la radio mondiale. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent en direct et bonsoir aux fidèles qui nous écouteront en sachant que c'est une rediffusion et qui seront donc très indulgents car notre rediffusion ne peut tenir compte des matchs en cours. Sinon, vous écoutez seulement la dernière partie, vous verrez, là, on ne parlera pas des matchs en cours. Mais nous sommes obligés de parler maintenant de la Ligue des Champions de cette soirée et de ces matchs retour très attendus en Espagne comme en Allemagne. À San Sebastian, où la Real Sociedad reçoit le Paris Saint-Germain pour essayer de combler son retard et se qualifier dans un stade prêt à porter son équipe, prêt à s'enflammer. Mais le PSG a 2 buts d'avance et ne devrait pas trembler, n'est-ce pas?
Mais non, jamais, absolument. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour
Eric, le PSG ne tremble jamais, même quand ils perdent.
Et vous non plus d'ailleurs.
Non, jamais.
Jamais, mais c'est pas un bon indicateur,
c'est
j'ai déjà remarqué. Nous rejoindrons aussi Cédric de Oliveira qui est du côté de San Sebastian. Les Bavarois face à la Lazio à Munich. Les Italiens ont gagné d'un seul but à Rome pour le Bayern. Il s'agit de sauver la saison grâce à l'Europe. Les hommes de Tuchel peuvent-ils gommer leurs lacunes ce soir pour l'emporter ? Le football et les blessures, celle de Mouktar Diakabi, le Guinéen de Valence, écarté pour de longs mois des terrains après une grosse blessure. Comment revenir ensuite? Et puis ne pas revenir sur la pelouse en cas de protocole commotion, une recommandation qui devrait être entérinée bientôt par la FIFA. Et pour parler de ces sujets, il y a d'autres invités autour d'Éric. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Nabil Djellit est là aussi.
Bonjour, Annie,
bonjour Nabil.
Bonjour à tous.
Sophia Namazian m'a aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gelt est à la réalisation, aidé de Alice Ménard. Radio Foot, c'est parti.
Et on va en rester là. Paris a fait preuve de patience. 1-0 grâce à Mbappé. 2-0 grâce à Monsieur Bradley Barcola.
Si estuviéramos ahora, imagínate, no hay Champions y estuviéramos a las puertas de una semifinal de Copa.
Villarreal qui va bien s'imposer sur le terrain de la Real Sociedad.
Ne la trouvera pas, c'est terminé. La victoire 3-2 du Séville FC aux dépens de la Real Sociedad.
Une ambiance des grands soirs, c'est ce qui attend le PSG ce soir de l'autre côté de la frontière dans le Pays Basque espagnol. Le stade d'Anoeta, situé au bout de la plage de la Concha, peut accueillir 40 000 supporters et spectateurs. Un immense tifo est très attendu d'ailleurs ce soir et la très grande majorité des tribunes sera donc aux couleurs bleues et blanches de ce club si populaire. Il y aura aussi en tribune un Français, Cédric de Oliveira. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors vous n'aurez pas de maillot, hein, ni de l'un ni de l'autre, hein, selon la règle.
Non, objectif.
Ah, n'est-ce pas,
pas supporter.
Cédric, on attend une ambiance folle et c'est vrai que c'est une ville de taille assez modeste, mais qui vibre pour son club.
Oui, alors il faut rappeler que la Real Sociedad, c'est ce genre de club, vous savez, on dit que c'est des institutions. Donc ici, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Real Sociedad. On a croisé quand même certains qui n'aiment pas le football, ils nous l'ont avoué, presque à demi-mot. Il y en a aussi qui sont fans de l'Athletic Bilbao, hein, c'est pas très très loin d'ici, hein, Bilbao, et c'est aussi un club dont on est très fiers au Pays Basque. Mais évidemment, ici à Saint-Sébastien, eh ben, on a la Real Sociedad dans le cœur, ça fait partie de cette identité, cette ferveur, vous en parliez. Elle se manifeste surtout à Anoeta, la Real Arena, hein, comme elle a été récemment rebaptisée, réputée pour ses ambiances folles. 40 000 spectateurs, vous l'avez dit, on l'a vu en Ligue des Champions lors de la phase de poule et aussi récemment en demi-finale de la Coupe du Roi. Alors la Real a été éliminée au tir au but par Mallorca, mais les supporters ont poussé, ça ne leur a pas suffi pour se qualifier pour cette finale, mais on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'ambiance dans tous les stades d'Europe. Ça sera un des enjeux de ce match. On sait que les Parisiens n'aiment pas trop, hein, ce genre d'ambiance dans un passé un peu moins récent. Oui. Et récent, oui. Ça s'est mal passé. On rappelle qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur cette saison, les Parisiens, en Coupe d'Europe.
Alors l'ambiance, évidemment, ça compte, hein, pour une équipe, mais il va falloir beaucoup de soutien, car la Real Sociedad ne gagne pas. Vous le disiez et vous y faisiez allusion déjà, Cédric, hein, à Anoeta, depuis longtemps, et c'est même depuis le 26 novembre en championnat, en Liga, c'était contre le FC Séville, mais depuis, la Real accumule Match nul et défaite, une Real cependant encore très motivée. Comme l'a dit hier soir à votre micro, le japonais Takefusa Kubo.
Nous, on essaye de ne pas vraiment s'intéresser aux joueurs de l'autre équipe. Je pense que nous en avons assez de ne pas avoir gagné de match à domicile. Et ce que nous voulons, c'est plutôt transmettre de la joie, du bonheur, ce sentiment que nous voulons gagner, que nous voulons tout donner pour les supporters, que nous puissions apporter ça pendant le match, dès la première seconde. On veut aller de l'avant, se donner à fond et essayer de gagner cette rencontre.
Est-ce que cette mauvaise passe gâche la fête du côté de San Sebastián, Cédric?
Alors, gâche la fête, je pense pas, en tout cas pas avant.
10 ans sans Ligue des Champions, peut-être que...
Mais c'est vrai que bon, on n'est pas très confiant. Vous avez parlé de mauvaise passe. C'est une victoire lors des 9 derniers matchs, la Real Sociedad, 4 matchs nuls et 4 défaites également. Donc, cette élimination en demi-finale de la Coupe du Roi, ils sont 7e de Liga à 15 points des places européennes. Voilà, on sent qu'après Noël, ils ont un peu sombré physiquement les Basques et puis ils ont un peu plus de mal à marquer aussi, alors qu'on a longtemps loué le jeu de cette équipe si emballant lors de la première partie de saison. On rappelle qu'en Ligue des Champions, les Basques avaient fini en tête de leur groupe et invaincus. Alors on espère ici que le retour de Oyarzabal, le meilleur buteur et le capitaine qui revient de blessure, apportera un peu de dynamisme à cette attaque basque en Berne. Mais bon, on croit aussi à l'exploit, mettre le doute dans la tête du PSG, puisque vous savez, ici c'est le Pays Basque, mais c'est quand même l'Espagne. Et on sait que le PSG a subi quelques déconvenues par le passé de l'autre côté des Pyrénées. On entendait Kubo, le japonais, il a d'ailleurs dit en conférence de presse que tout était possible. Et alors lui, il a pris en exemple ce qu'avaient fait les Argentins en finale de la Coupe du Monde face aux Français.
Il s'est trompé.
Voilà, il l'a fait en des termes un petit peu cavaliers. Il a parlé de caractère, je vais rester correct, mais il a parlé un peu de la proéminence de l'entrejambe, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc lui, pour lui, il a... voilà, c'est un peu comme ça que les Basques vont essayer de battre les Parisiens, puisque en face, il y a beaucoup de Français. Voilà, il a fait cette analogie.
Bon, il a sorti l'armada. Nabil, pour ce qui est de cette équipe, on
ça
se souvient...
Ça ne plaît pas, Eric.
Ça les fait rire, surtout, malheureusement, Cédric. Nabil, cette équipe espagnole, moi, je me souviens, quand il y a eu le tirage au sort, François David était très élogieux sur la Real Sociedad. Elle avait commencé très bien le championnat elle est en désaccélération, on va dire, en ce moment, décélération. Surtout, est-ce que ça a été cette mauvaise passe avec beaucoup de blessés qui leur a fait un peu perdre leur football, ou est-ce qu'on avait quand même vu la première mi-temps contre le PSG, où c'était pas trop mal?
Non, ils sont pas dimensionnés pour être là, ils sont dimensionnés pour être en Europa League, en quart ou en demi-finale au mieux. Ils ont surperformé, notamment en Ligue des Champions. En Liga, peut-être un peu moins, parce que moi, je pense que le niveau de la Liga, il a quand même globalement baissé. Et eux, ils travaillent bien. Ils ont un collectif, ils ont un logiciel de jeu. Ils ont un état d'esprit, une institution, comme l'a dit à juste titre Cédric. Et puis derrière, ils n'ont pas une profondeur de banc XXL. Je veux dire, aujourd'hui, en Espagne, ils ne peuvent pas attirer les meilleurs joueurs. Donc, à chaque fois, c'est des paris. Ils ont une série de recrutement qui est d'une efficacité sans nom, enfin, qui est une des meilleures d'Europe, quasiment. Mm-hmm. Qui se met sur des joueurs à fort potentiel qui ensuite vont en première ligue ou ailleurs. Et ils font même quelques coups maintenant. On l'a vu avec l'international malien, par exemple, Amari Traoré qui est parti libre de Rennes. Donc, c'est une bonne équipe. Mais ce soir, elle a quand même 2 buts de retard. Alors, moi, je veux bien que l'ambiance elle soit extraordinaire. Mais bon, dernière nouvelle, les spectateurs, ça marque pas de but. Ce soir, s'il devait y avoir une qualification, je pense que ce serait surtout le Paris Saint-Germain qui perdrait le match plus que la Real Sociedad qui le gagnerait.
Alors là, pour se qualifier sans gagner, ça serait compliqué.
T'as 2 buts d'avance.
Bah oui. Non, mais...
Bruno.
Non, mais moi, ça fait partie de ces équipes surprises de phase de poule de Ligue des Champions qui, quand ils ont le tirage au sort, le tour est des 3 mois, 2 mois et demi après.
Ils étaient forcément... surtout premiers de leur groupe, en plus. C'est ça qui avait surpris. Donc, ils étaient dans une dynamique incroyable.
C'était la période de octobre, novembre, début décembre. Et comme il y a 2 mois et demi, 3 mois après les huitièmes de finale, forcément, ça change. Et les équipes surprises, souvent, ont du mal à confirmer. Après, moi, j'oublie pas le match aller. Ils étaient déjà en difficulté avant le match aller. Et très honnêtement, la première heure qu'ils font face au PSG, ils étaient très bons avec les nombreuses absences. Donc, je ne dis pas qu'il faut trembler en ayant un avantage de 2-0, parce que si on tremble avec un avantage de 2-0, on arrête la Ligue des Champions et puis on passe à autre chose. Mais on ne sait jamais, s'ils marquent un but, on sait que ça peut changer l'atmosphère et surtout ça peut changer l'atmosphère dans les têtes parisiennes.
Eric, avant de parler des Parisiens, quand même, ces Espagnols, ils vous avaient impressionné au Parc des Princes au match aller?
Alors, c'est pas qu'il m'avait impressionné. C'est
ou
surtout,
étonné.
Peut-être
pas impressionné, mais étonné
Kubo,
par rapport...
C'est ça, qui avait été très très bon. Lui, il avait vraiment fait un peu
la
musique.
C'est quoi son prénom?
Ah oui, je sais, Takatana. C'est pas ça, c'est presque.
Takefusa.
En tout cas, lui avait été très très bon. Il peut parler aujourd'hui puisqu'il avait été très très bon au match aller, mais voilà, c'était surtout lui qui avait fait illusion quand même dans le par rapport à ce à cette équipe. Et puis le Paris Saint-Germain qui n'était pas à la hauteur de son rang, comme souvent, j'ai envie de dire cette année.
Quand on n'y est jamais au rang,
on va y finir au Paris Saint-Germain.
C'est encore différent.
Ouais. On va les rhabiller pour
l'hiver. Mais en tout cas, là, cette équipe, elle enchaîne quand même des matchs difficiles, même s'il y a des retours, ça reste quand même...
Cédric, vous avez fait un reportage qui est passé ce matin dans les éditions sur RFI en parlant de Amari Traoré. On se souvient que son match aller n'était pas très réussi, que l'entraîneur l'avait nommément visé, ce qui nous avait un peu tous étonnés parce qu'on avait trouvé ça carrément mal à propos, n'est-ce pas ? Amari Traoré, pourtant l'un des cadres et qui compte pour les supporters apparemment.
Oui, bah les supporters l'adorent. Certains nous ont parlé un peu de son état d'esprit. Ils trouvent que ça colle avec l'identité basque. En tout cas, ici, Nabil parlait de la cellule de recrutement. Peut-être qu'elle a ciblé ça. En tout cas, elle a trouvé un joueur qui pouvait se fondre dans ce collectif, puisqu'il est quand même géographiquement assez éloigné du Pays basque, Amari Traoré. Mais c'est vrai que, en tout cas, il s'est plutôt bien fondu. Il est toujours là, toujours présent. Il rate quasiment jamais un match à part pendant la CAN où il a raté évidemment tout le mois de janvier. Mais alors on parlait de cette critique de son entraîneur Emmanuel Alguacil. Mais derrière, il a un peu revenu dessus. Hein. Il a dit
un bon, peu fait amende honorable.
Je l'ai réprimandé là pour ce match face au PSG, mais voilà, je n'en pense que du bien. Et d'ailleurs, derrière, il a joué tous les matchs à part celui face au FC Séville ce week-end où il avait plutôt été ménagé en préparation justement de ce match face au PSG.
Ménagé ou mis sur le banc ? Pardon.
Non mais on va être curieux.
Là, en tout cas, il a été mis au repos là pour ce week-end avec
un bon
Normand,
joueur,
avec plusieurs titulaires.
C'était allusion à une autre situation. Vous avez bien compris,
oui,
Eric,
oui,
j'espère.
Bien sûr.
Et Cédric aussi. Nabil, Amari Traoré.
Non, mais on sait que c'est un joueur hyper précieux dans le dépassement de fonction avec un volume incroyable. Mais ce soir, il sera aussi attendu défensivement. Il avait été en difficulté
justement
sur le match aller, on l'a dit, hein. Et il aura affaire. Bon, moi je connais pas qui va être titulaire, mais enfin c'est soit Barcola, soit Mbappé dans ce secteur-là. De toute
soit
façon,
peut-être les deux.
Ou soit peut-être peut-être les deux, ou soit on aura une surprise. Je sais pas.
Je pense que Barcola.
Toi, tu ouais, donc il sera aussi attendu dans ce registre-là où il était quand même mis en difficulté au match aller. Il faut le rappeler. Bon, après Amari Traoré, ça reste un joueur confirmé. Un leader positif. Et puis, Cédric a raison de rappeler quand même que du côté de la Real Sociedad, on n'a pas douté de son état d'esprit avant de le recruter. Et que lui aurait pu avoir d'autres possibilités ailleurs, je le sais. Et il est quand même venu dans ce projet. Donc, c'est plutôt intelligent de sa part.
9 matchs donc que la Real Sociedad ne gagne pas face à 20 matchs sans perdre pour le Paris Saint-Germain. On a bien vérifié, on a bien compté, c'est bien 20, Eric.
Oui.
Et atteindre donc un quart de finale, eh bien, ça n'est pas arrivé depuis 3 saisons. Donc là, on les attend, les Parisiens.
Ouais.
Oui, ça serait les 2 saisons précédentes où ils sont sortis.
C'est-à-dire que c'est une équipe qui avait Messi, Neymar, Mbappé, ça fait 3 ans qu'elle n'arrive pas à arriver.
On s'en souvient, les supporters n'étaient pas très... Oui, rajoutez-en.
Non, mais c'est dingue le foot quand on réfléchit, quoi.
Et surtout le contexte qu'il y avait. Alors, 2 matchs nuls, en tout cas en championnat, pour ce qui est des récents résultats.
Oui.
C'est évidemment pire pour la Real Sociedad, mais il y a eu match nul au Parc face à Rennes et puis à Monaco au cours du week-end. Et surtout, aucune victoire à l'extérieur en Ligue des Champions. Pardon. Il y a même 2 défaites. Et Cédric, hier, c'était Bradley Barcola qui parlait en conférence de presse. Et voilà ce qu'il a dit.
On travaille beaucoup ensemble pour être meilleur à l'extérieur. On sait qu'on a plus du mal, mais aujourd'hui, vraiment, comme je l'ai dit, on vient pour gagner. On m'avait dit qu'on était sur un matelas, mais je pense pas. Les matchs comme ça, ça repart à zéro, donc vraiment, on vient pour gagner. On sait que ça va être un match compliqué, mais on s'est bien préparé.
Alors, ils savent, Cédric, que c'est un match compliqué, mais ils ont quand même 2 buts d'avance. Et on se souvient, c'était un match au Parc des Princes où d'ailleurs Kylian Mbappé avait été désigné meilleur joueur de la rencontre. Est-ce que vous sentez le PSG en danger ? Peut-être pas, si vous me dites qu'en plus, les supporters de la Real sont moyennement confiants.
Le PSG, si on regarde effectivement les dynamiques des deux équipes, si on regarde aussi les blessures du côté de la Real Sociedad, si on regarde les joueurs qui composent le PSG, oui, tout va bien. Mais encore une fois, cette équipe, notamment ces dernières années, elle a montré qu'elle était capable de couler, alors que les pronostics ne la donnaient pas perdante. Donc ici, on parle beaucoup et c'est pas un hasard hein, si Kubo et même l'entraîneur ont parlé que tout était possible. C'est d'essayer de mettre le doute dans la tête de cette équipe du PSG, aller savoir si la Real Sociedad finit par marquer dans la première demi-heure. Est-ce que derrière le PSG va pas commencer à gamberger, à se dire encore peut-être une soirée difficile qui nous attend. Il y a quand même eu ces dernières années, il y a eu le Real Madrid, la remontada, enfin celle face au FC Barcelone il y a encore plusieurs années. Il y a aussi Manchester United, alors qu'ils avaient gagné 2-0 à l'aller, ils ont perdu 3-1 à domicile. Voilà, on ne sait jamais avec le PSG. C'est sûr que sur le papier, en tout cas, les indicateurs sont plutôt positifs. Mais on va attendre de voir un petit peu ce que ça donne ce soir.
Alors, en Ligue des Champions, le PSG, c'est PSG pas sûr de gagner. Voilà.
Très bien, voilà. Nabil.
Merci, Nabil.
Pas du tout, ça m'est venu.
Avec
non, mais c'est comme Cédric. Non, mais Cédric dit on sait jamais, il a raison. Donc, c'est vraiment une équipe pas sûre de gagner, non, même quand elle a gagné à l'aller.
On sait jamais, mais pas contre des équipes de ce niveau.
Ils
de
sont
cette
capables de repousser toutes les limites, attention.
Là, les déconvenus qu'on parle du PSG, en huitième de finale, ou dehors de Manchester United en 2019, parce qu'il y a énormément d'absents. C'est contre le Real.
Non, mais cette saison, il y a quand même deux défaites. Une à Newcastle et une à Milan. C'est phase de poule. Mais
on n'arrête pas de dire que c'est deux compétitions totalement différentes. La phase de poule, la phase d'élimination directe. Ils le disent tous les entraîneurs le disent. Et c'est vrai. Mais dans les phases d'élimination directe, sur deux matchs, le PSG, il n'y a jamais eu de déconvenu face à une équipe supposée plus faible.
Il faut se qualifier et essayer d'être premier du groupe, n'est-ce pas, et la Real Sociedad?
Non, mais on parlait de déconvenus, la remontada du Real Madrid, du Barça, etc. Il n'y a pas eu de grosses déconvenues face à des équipes supposées inférieures en élimination directe.
Est-ce que tu ne penses pas que ce club-là, avec tout ce qu'il a vécu, son passé et son passif, je disais avec un peu d'humour et de provocation, qu'il était parfois capable de repousser les limites du ridicule? C'est pas inenvisageable.
Non,
c'est
pas inenvisageable.
C'est pas inenvisageable. Du fameux Manchester United
diminué
à domicile.
Oui, diminué en plus.
Mais ça a été la seule déconvenue. Mais c'était Manchester United qui a gagné trois fois la Ligue des Champions.
Oui,
c'est pas n'importe qui en plus. C'est pas la Real Sociedad.
C'était pas Rankin sur le terrain et Sheringham.
Alors, la parole est à la défense. La parole est à Eric qui avait un petit sourire quand Cédric parlait tout à l'heure et qui continue à avoir un petit sourire.
Après, évidemment, on peut pas fanfaronner avec les performances du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions, surtout à l'extérieur, parce qu'ils ont été très très loin de ce qu'ils devaient nous présenter.
Deux victoires, 4 nuls, 5 défaites.
C'était pas un groupe forcément facile, mais c'était un groupe largement à la portée du Paris Saint-Germain.
Pas de victoire à l'extérieur.
Et qui était quand même favori du groupe. Donc, quand tu fais les matchs que tu fais à Newcastle, où tu es complètement inexistant et que tu n'as aucun caractère, rien du tout,
aucun
qui propose
ressort.
Rien du tout.
Oui, t'as ton entraîneur qui t'aide
pas. Là, c'est inquiétant.
Quoi.
Alors après.
À Milan aussi, où on a fait
Milan,
le plus gros match aller.
C'était un peu mieux quand même. C'est une défaite, mais c'était quand même un peu mieux. Mais en dehors de ça, le Paris Saint-Germain.
On le sait, le Paris Saint-Germain, son meilleur ennemi, c'est lui-même.
C'est lui-même, exactement. Cette année, on est quand même parti sur un collectif et pas sur que des individualités.
Voilà. Donc discours. Ça,
donc ouais, dans mais discours. Non, oui, mais
quand même. On l'a pas vu le collectif. Hein.
Non, mais
si t'as vu un collectif,
non, mais tu le vois.
Non, mais
tu vois
si t'as vu un collectif à Newcastle, dans la difficulté,
non,
j'ai pas vu.
En Ligue des Champions, je suis d'accord. Voilà. On est d'accord. Pas en Ligue des Champions.
C'est déjà,
mais
sauf
que, sauf qu'au fur et à mesure, c'est en train de se mettre en place et que voilà, tu vois, aujourd'hui, tu récupères Nuno Mendes qui peut changer quelque chose, énormément de choses au Paris Saint-Germain, même s'il revient. Tu sens tout de suite, quand tu vois la dernière demi-heure à Monaco, même si le Paris Saint-Germain n'était pas très bon avant, ça change quand même beaucoup de choses. Avec l'entrée de Dembélé et de Barcola, si je ne dis pas de bêtises.
Là, je m'adresse à coach Rabé Sandratana. Quelle tactique ce soit pour Luis Enrique? Attendre? On
moi,
a deux buts
non,
d'avance,
moi, je
on
je
attend
Je pense que le Paris Saint-Germain ne sait pas faire ça. Donc, je pense qu'il faut jouer.
Et Luis Enrique non plus.
Et en plus par contre, ça ne veut pas dire te livrer. Mais par contre, avec les joueurs que tu as, tu peux forcément profiter des espaces
patienter.
Que tu vas avoir. Parce que tu mènes 2-0 quand même. Donc, la Real va être obligée de jouer. C'est-à-dire que toi, tu dois profiter des espaces derrière. Et là, tu as vraiment l'équipe pour jouer et pour aller très, très vite vers l'avant. Et là, ça va être un vrai problème pour la Real. Au match aller, ils n'ont jamais joué dans le dos de la défense. C'est-à-dire qu'ils avaient un pressing tout le temps. Et ils n'ont jamais avec les joueurs rapides qu'ils ont, ils n'ont jamais joué dans le dos de la défense. Et en fait, c'était la solution au départ de cette première mi-temps. Après, le jeu s'est un peu rééquilibré, mais n'empêche que c'était ça la solution. Et on ne l'a jamais fait. Je me dis, mais c'est pas possible de ne pas réfléchir comme ça. Donc là, aujourd'hui, je pense que bah, la Real est obligée de sortir pour jouer. Donc la physionomie est quand même différente.
Nabil ?
Non, non, mais on ne peut pas analyser mieux que Eric. Enfin, ce que tu dis, Nabil. C'est la bonne config. Mais bon, moi, alors, c'est bien qu'Eric soit là, mais il y a quand même des interrogations au niveau du Paris Saint-Germain. Je ne parle pas de la relation toxique entre Mbappé, le club et l'entraîneur, mais sur l'assise défensive et au milieu de terrain. On ne sait pas qui va être aligné ce soir en charnière centrale. Moi, je trouve que c'est quand même important, une charnière centrale. Quand on voit en plus la qualité de la charnière... Beraldo, moi j'ai rien contre lui, il vient d'arriver du Brésil, on le balade un coup à gauche, un coup dans l'axe, là, ça se trouve, il va se retrouver dans le match.
Là, il va plus y aller à gauche, hein, ouais, c'est sûr.
Non, mais là, il va se retrouver, ça se trouve, dans l'axe.
Défenseur central,
il va se retrouver, ça se trouve, par exemple, Manchester City, le Bayern, ou je sais pas qui d'autre, ou le Real, ils ont des blessés à
non, mais attendez,
à tue-tête,
ils sont pas qualifiés
quoi.
Encore.
Non, mais quand ils ont des blessés derrière, ça va quoi, les squads défensives. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est une vraie interrogation. Parce que moi, quand je vois, je suis désolé, Danilo et Beraldo en charnière centrale. Danilo, il est lent. C'est un gars qui a été reconverti, qui est passé milieu à défenseur central, qui fait le job, hein, qui est le bon soldat, qui est même le leader, le leader dans l'ombre de cette équipe. Mais c'est comme Dante ou Abdelhamid à Nice et à Reims. Il faut un jeune à côté rapide, quoi.
Ouais, mais Nabil,
t'as Beraldo qui vient de débarquer du Brésil.
Non, mais Nabil, tu parles là des quatrième et cinquième choix.
Oui,
en
mais ils vont être titulaires, ça se trouve.
Les trois titulaires supposés sont blessés.
Oui, mais non, mais c'est
non,
ce
mais
que je suis en train
de. Quel club
oui, mais ça peut être un
regarde Liverpool. Liverpool, quand il est absent en charnière centrale, Klopp, il a bricolé avec ses troisième et quatrième choix.
Aujourd'hui, le choix.
Et même le Real.
Aujourd'hui, le vrai choix aujourd'hui, c'est de savoir s'il veut aligner Nuno Mendes et à ce moment-là, Hernandez passera dans l'axe.
Oui, là, c'est plus rassurant.
Déjà, ça te renforce.
Est-ce que Lucas Hernandez sera titulaire? C'est une vraie question.
Il va bien tenter.
Parce que les derniers choix de Lucas
Hernandez. Donc, c'est des motifs d'inquiétude.
50 000 choix non plus en défense.
C'est des motifs d'inquiétude.
Il a choisi Beraldo la dernière fois.
Cédric, qui est à Saint-Sébastien, vous vouliez dire.
Non, mais c'est vrai que on peut s'attendre à tout avec Luis Enrique. Il avait titularisé Beraldo à l'allée à gauche d'ailleurs.
Ouais, qui n'a pas été bon d'ailleurs. Mais c'est normal.
Ouais, et tout à l'heure, Eric vous en parlait justement. Il avait souffert face à Takefusa Kubo justement sur le côté. C'est Beraldo, voilà, le pauvre Beraldo qui avait, je crois que c'est son premier match en Ligue des Champions. Voilà, il n'avait pas été aidé. Donc bon, Luis Enrique, il est capable de tout. On l'a vu dans ses compositions d'équipe.
Dans ses déclarations aussi.
Dans ses déclarations, effectivement. Après, là, c'est vrai qu'en défense, il y a quelques interrogations, mais le reste, au milieu et en attaque, il devrait quand même faire jouer ses meilleurs joueurs, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. En tout cas, signalons aussi qu'il y a trois joueurs qui sont sous menace de suspension.
Alors, c'est intéressant, ça.
Achraf Hakimi, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte.
Donc, c'est important parce que s'il passe le tour d'après, ça va pas être forcément la même nouvelle.
On va voir aussi la gestion des émotions de cette équipe du PSG, ce qui n'est pas leur point fort. Ouais.
Donc, ça, c'est sûr.
Merci beaucoup, Cédric de Oliveira, d'avoir été en direct avec nous.
Hein. Et surtout, tu leur lâches pas les basques, Cédric.
Merci pour les petits oiseaux et bientôt, il va y avoir les chants des supporters. Là.
C'est ça.
Merci, Cédric. À plus tard et bon match. Il y a un autre match ce soir, et ça, c'est dans le sud de l'Allemagne.
Et on en restera là, Fats, on en restera là. C'est un match nul concédé par l'équipe de Thomas Tuchel qui, jusqu'à la 87e minute, tenait sa 18e victoire de la saison. Et pour la première fois depuis bien longtemps, mesdames, messieurs, l'Allianz Arena exulte. Et pour la première fois dans son histoire, la Lazio de Rome va donc s'imposer face au Bayern Munich, remporter ce 8e de finale. Allez, 1-0.
Le stade de Munich vibre toujours, lui aussi, quand il s'agit de Ligue des Champions, un stade qui devient alors tout rouge, sous l'effet des lumières. Et en ces temps difficiles, les supporters veulent sûrement croire à un sursis, une parenthèse ce soir, dans une saison compliquée pour leur Bayern. Les Bavarois sont, on peut le dire, largués en Bundesliga à 10 points, à 10 journées de la fin. Les soirées européennes doivent donc se prolonger pour leur mettre un peu de baume au cœur à ses supporters. La Lazio arrive avec un but d'avance et le Bayern doit les prendre à la gorge. En tout cas, c'est ce que préconise Thomas Tuchel.
Im Grunde keine Zeit zu verlieren. Wir haben 90 Minuten und wir dann vielleicht noch mal.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons 90 minutes, peut-être plus en cas de prolongation si nous ne gagnons que d'un but. Mais le message est clair, nous n'avons pas de temps à perdre. On ne peut pas attendre pour attaquer, pour aller dans le camp adverse. Il ne faut pas tergiverser. S'il y a la possibilité d'être dans la surface de la Lazio, nous devrons y être. Nous ne pouvons plus être patients. La Lazio, elle, a tout son temps.
Die Zeit ist auf der Seite von Lazio.
Bruno Constance, le Bayern, ok, ça va pas très bien en ce moment en championnat, c'est, mais quand même, en jouant chez eux ce soir, le match retour avec un but en retard dans ce match, ils restent favoris.
Vous saviez que l'émission avant le match aller, j'étais là et on avait dit oui, oh, le Bayern est en crise en Bundesliga, mais la Lazio aussi, donc c'est ça vrai. Devrait passer. Et puis au final,
je me souviens très bien qu'on disait quand même qu'il y avait un danger.
Et ben là, moi je trouve que le Bayern parisianise. C'est un club qu'on érigeait en modèle de gestion, etc. Depuis 3-4 ans, c'est quand même pas ça.
On a l'impression qu'il faut pas faire. Alors, pour faire un parallèle, et vous, supporter et surtout connaisseur du football anglais, on a l'impression qu'ils vivent un peu leurs années Manchester United. C'est-à-dire, à un moment, les dirigeants partent, changent. Alors là-bas, c'était Ferguson, et là, c'est Ole Gunnar. Et on a l'impression qu'en ce moment, le Bayern a perdu son...
Ils ont installé des hommes sans expérience à des postes importants. Je pense à Salihamidzic qui fait à peu près tout et n'importe quoi. Je trouve que virer Nagelsmann l'année dernière, alors qu'ils étaient en bonne situation en Bundesliga et en Ligue des Champions, ils le virent et c'est une catastrophe avec Thomas Tuchel. Et là, ils sont. Je regardais, s'ils sont éliminés, ça serait la première fois depuis 1992 que le club du Bayern Munich n'aurait plus rien à jouer au mois de mars.
Bon, donc c'est une crise quand même sur la qualité du club quand même.
Non mais c'est une crise. Non mais du coup ça renvoie quand même à une crise qu'on n'a pas vu depuis 30 ans.
Guardiola, on se souvient au mois de mars, il leur restait le championnat, puis parfois ils étaient éliminés et finalement on se disait ouais quand même.
Ça va.
Ils avaient le jeu. Ils avaient le jeu qui sauvait un peu les apparences, ou en tout cas certains résultats. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a pas d'atmosphère, d'ambiance entre l'entraîneur et le vestiaire. Au sein de la direction, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a encore des changements qui sont en route. Il y a un directeur sportif qui arrive en cours de saison, là, qui a été nommé et avec Max un autre profil. Ils font tout et n'importe quoi depuis 2 ans. Et franchement,
et donc ça se voit dans les résultats.
Et forcément, ça a un impact sur les résultats,
quand ils prennent
sur le vestiaire.
Qui dit qu'ils font n'importe quoi?
Là, on a quand même
non,
eu.
Non,
mais
ils n'ont pas fait n'importe quoi. Non,
sur
mais
coup, ça aussi. Coup sur coup, en l'espace de 15 football, jours, fois, on a eu quand même un cadre du vestiaire, Thomas Müller.
Ah oui, lui, il a été.
Qui
il
dit
a
au bazooka. On fait n'importe quoi sur le terrain, on met aucune intensité, rien, c'est pas le Bayern. Et là, ce week-end, on a Thomas Tuchel qui dit ce qu'on a fait en première période, on l'avait même pas préparé à l'entraînement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc là, il y a un message qui ne passe absolument plus entre le vestiaire.
De toute façon, il devait voyager rapidement entre Dortmund et le Bayern. Il y avait eu un tir de barrage à l'époque de certains cadres, notamment de la National Mannschaft, pour pas qu'ils viennent. Et là, étonnamment, quelques années plus tard, ils se retrouvent en conflit avec. Avec Müller qui n'hésite pas à l'allumer. Donc.
Et en remplaçant, on s'en souvient l'année dernière, un entraîneur qui était Julian Nagelsmann, qui finalement n'avait pas de trop mauvais résultats. L'ambiance était autre chose, mais il est notamment bon en Ligue des Champions.
S'est planté contre Villarreal, si je ne dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, Nagelsmann, avec... Sur 2 saisons, il y a une des 2 saisons où il prend de haut Villarreal, il se fait sortir.
Il fait qu'une demi-saison.
C'est contre Villarreal. Non, mais.
Et c'est très bizarre, effectivement, ils avaient appelé Tuchel et malheureusement, Eric Tuchel, il est un peu à l'image du personnage qu'on a vu à Tuchel. Paris.
Il est Tuchel.
je pense qu'il a, il est. Je pense que ça peut être pire cette expérience avec le Bayern parce que c'est dans son pays et je pense qu'émotionnellement ça va être très très dur pour lui de
je pense
d'afficher
que ça l'est
cet échec parce que je pense personnellement que après le Bayern il visait l'équipe nationale à mon avis et que là ça a vraiment un gros frein dans son parcours et ça peut
même
être
même si tout le monde le sait être sélectionneur
et être fan de se faire virer au Bayern puis récupérer la sélection
mais c'est pas pareil
et puis on se souvient de Flick
je trouve qu'il a réussi quand même
Flick réussit avec le Bayern et ne réussit pas avec la sélection.
Oui, voilà, il a gagné la Ligue des Champions il y a, ouais, il y a 3 ans.
Non, mais
il,
si on est d'accord, c'est un accident. Non,
ils ont l'occasion de sauver leur saison.
Après ce qu'il affiche, il a gagné, non, bien sûr.
Nagelsmann ne l'a pas gagné.
Mais qu'est-ce qui ne va pas entre Tuchel et cette équipe et son équipe?
Est-ce que cette équipe, elle est pas. Est-ce qu'elle a envie d'entendre Tuchel? Parce que c'est toujours pareil.
Mais pourquoi leur message
entendre? Il a clairement dit des choses.
L'année dernière, il arrive en milieu de saison.
Il revient. Non, finalement, non, mais c'était à moitié quand même. On disait on n'en veut plus. Finalement, ils l'ont gardé, ils l'ont remis en place et c'était un bazar quand même.
Alors, en milieu de saison, oui. Enfin en début de saison.
Non, mais il y a quand même l'annonce de son départ alors oui, que c'est au mois de mars.
C'est ça que je dis.
Oui, d'accord. Ça, quel impact ça met sur le vestiaire? Comment le vestiaire.
La fragilité de l'entraîneur derrière.
Le vestiaire, il est en autogestion.
Non, mais il arrive à être champion, donc on se dit, il y a une logique.
Non, mais cette saison.
On dit ça à Paris, c'est pareil.
Là, cette saison, quand ils annoncent le départ de Tuchel à la fin de la saison, alors que la saison n'est pas terminée, le match qui suit, ils font n'importe quoi sur le terrain. Donc la gestion de ce club est catastrophique. Et Tuchel a évidemment une responsabilité, mais Tuchel, il fait exactement la même chose qu'il a fait au PSG. En fin de parcours, il a fait la même chose à Chelsea.
Il se protège.
Il s'est explosé avec le vestiaire.
Et à l'époque,
alors qu'il était
à Dortmund, on s'en souvient, David Lortolari nous le racontait.
Il est colérique, et sa communication est désastreuse. Elle est désastreuse.
Alors, à lui aussi, en conférence, on lui demande à chaque fois, vous croyez que vous serez là au prochain match, machin, bon.
On sait qu'il ne sera plus là en fin de saison, déjà.
Nabil, en tout cas, même s'il y a un Tuchel, est-ce que cette équipe, quand même, chez elle, à domicile, elle devrait se qualifier ce soir?
Oui, mais rationnellement, oui, mais avec tout ce qu'on vient d'exposer, est-ce qu'on serait surpris s'ils se faisaient éliminer? Puisqu'on dit que c'est le souk, on
mais
sait que l'entraîneur s'en va.
C'est ce qui leur reste. C'est-à-dire qu'en fait, aux joueurs, non, mais les joueurs, les conditions... ils savent qu'ils ont perdu le championnat. Il leur reste quand même la Ligue des Champions,
oui, bah
un quart de finale en ligne de mire.
Je suis d'accord avec vous, Annie, vu la qualité de l'effectif que je viens de regarder discrètement sur mon smartphone, alors que c'est interdit. C'est interdit de l'utiliser dans ce studio.
Vous n'avez pas préparé l'émission, monsieur.
Je voulais me remémorer certains noms, et puis il y a des blessures importantes, comme Coman, par exemple, l'international français,
qui est souvent débloqué la situation.
Qui est un joueur clutch. Du côté de non mais normalement ils sont
au-dessus. Souvent débloquent les situations.
Et moi si je suis la Lazio, attendez, je me dis là tous les chemins mènent à Rome là dans cette histoire. J'ai envie d'être sacré empereur face à eux quoi. Ouais mais ça va être plus compliqué. Mais non mais là ce soir moi je suis la Lazio ce soir.
Une vraie chance.
Mais attends mais c'est la chance de leur vie à la Lazio là ils sont rayés de la carte du football européen.
Tu sais que si tu marques le premier tu peux les tuer psychologiquement parce qu'ils sont
ils peuvent en prendre 3 aussi,
ils sont fragiles. Les forces de la Lazio elles sont dans quoi? Dans ce but d'avance, dans encore l'éternel immobilier.
Bah, c'est peut-être un collectif.
On prenait l'exemple de la Real Sociedad qui est en difficulté en championnat, mais qui fait son parcours en Ligue des Champions. La Lazio, c'est pareil. Ils sont en difficulté en championnat et leur parcours est plutôt honorable. Mm-hmm. Je pense qu'ils n'ont aucune pression, surtout pareil. Moi, la Lazio. Non, ils n'ont aucune pression.
C'est quand même
Sarri. Ouais, bien sûr.
Il saura les motiver. Voilà.
Il y a une expérience. Ça va être dur quand même, parce que si le Bayern a un peu d'orgueil.
Oui.
Si le Bayern a un peu.
Pardon.
un peu d'orgueil, il va y avoir certainement une réaction, mais attention, parce que franchement, c'est vrai, on ne les voyait pas du tout perdre contre la Lazio au match aller, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc attention quand même.
Oui. En tout cas, pour ce qui est du Bayern Munich, on voit que pour ce qui est du championnat, il n'y a aucune chance de se rattraper. Et Eric?
Excusez-moi, j'étais en train de faire la même chose que la ville.
Le Bayern. C'est pour une équipe et pour un club et pour de cette ampleur de sauver sa saison.
Ouais, est-ce que ça suffira? Je sais pas, parce que c'est quand même déjà assez le bazar. Ils vont pas être champions, je pense, parce qu'il y a
10 points de retard.
Non, mais c'est surtout qu'il y a une machine de guerre en face. Donc ça va être très très dur de revenir. J'y crois pas du tout. Donc la Ligue des Champions, je ne sais même pas s'ils ont affiché ce qu'il fallait pour être performant en Ligue des Champions. Peut-être qu'ils vont passer contre la Lazio, mais après, derrière, est-ce qu'ils ont les...
Toi, tu l'as peut-être vécu en tant que joueur, mais il y a un truc aussi, souvent on dit parce que c'est un grand nom, ils vont le faire contre la Lazio. Ouais. Sauf que tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison,
c'est pas digne d'un match de grand nom.
Ce qu'ils montrent en ce moment en championnat.
Moi, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent transformer leur jeu en un soir.
Et pourtant, il y a
Leroy
Sané, il y a Gnabry, il y a
Kimmich, il y a Müller, il y a Kane.
Non, mais c'est pas un problème de qualité de joueurs, c'est un problème.
Il y a un tel delta entre la qualité des joueurs et ce qu'ils expriment collectivement, ça commence à changer
quand,
à Manchester
quand
United.
Quand ils signent Harry Kane l'été dernier, on était tous à dire le Bayern, ils vont être parmi les favoris de la Ligue des Champions.
Mais d'ailleurs, il a aligné beaucoup de buts en début de saison.
Il manquait juste un attaquant performant depuis Lewandowski.
Les joueurs, ils peuvent faire un pacte entre eux. Ils savent que de toute façon, Tuchel, il ne le calcule plus. Ils peuvent se dire, les gars, bon, sur la Ligue des Champions, on va se mettre minable ensemble, même s'il y a des dissensions, parce qu'ils jouent aussi un peu leur destin individuel. Et puis, je rappelle quand même qu'il y a un euro en fin de saison, donc oui, bon, il faut quand même se montrer positivement du côté des internationaux allemands. Il peut y avoir un pacte entre les joueurs.
C'est même pas une histoire c'est pour ça que de pacte, je pense que c'est déjà une conscience professionnelle. C'est-à-dire que tu joues une compétition hors norme et tu as envie d'être performant dans cette compétition. Déjà, ça devrait être déjà ça ton moteur avant de parler de tactique et
on a perdu le match aller quand même. Et on fait le match retour à domicile.
Celle-là, j'ai quand même l'impression qu'ils ont ce qu'il faut pour. Mais après, est-ce que derrière, collectivement, dans le jeu, je suis pas sûr.
Ouais. Si par contre, s'ils se font éliminer, ils peuvent déposer la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence et tous sortir du véhicule. Ouais. Non, mais c'est la saison, t'as raison, elle est terminée, quoi.
Terminée,
parce qu'ils sont surclassés par le Bayer Leverkusen. Ouais. La saison dernière, c'est un miracle qu'ils aient remporté le championnat, parce que Dortmund... Ouais. N'importe quoi, c'est la dernière fois qu'il le perd pour le coup.
Hein.
Bon, il y a un moment, t'es rattrapé. On parlait de flics tout à l'heure. À un moment, t'es rattrapé par la patrouille.
Ouais. Bon. Et pourtant, il y a des bonnes voitures en Allemagne. À ne pas s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Allez, on continue dans Radio Foot International et on va parler de choses. Et Eric, vous allez être important pour ça parce que vous avez votre regard de coach et d'ancien joueur. C'est celui des blessures. Une scène a donné des frissons, c'est celle de la grave blessure du défenseur central de Valence samedi sur la pelouse de Mestalla lors du nul face au Real Madrid. Nabil, vous voulez bien la décrire, Mokhtar Diakabi qui retombe mal.
Franchement, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé, mais je sais qu'il s'est blessé, c'est sûr.
Il y a une photo un peu moche sur la page de Radio Foot et je trouve que ça suffit, moi non plus, je ne suis pas allé regarder les images.
Une grave blessure malheureusement.
Voilà, il tombe.
Le genou.
Après un choc avec un joueur du Real Madrid, en l'occurrence c'est Aurélien Tchouaméni, et l'international guinéen, il s'est tordu le genou alors qu'on l'avait vu, joueur essentiel de Kaba Diawara lors de la dernière CAN. Et là, il est sorti sur civière. Le verdict médical depuis est terrible, une luxation du genou droit. Et le médecin traumatologue de l'hôpital où il est à Séville a déclaré deux choses qui font froid dans le dos et qui ajoutent au frisson. La première chose à vérifier, a-t-il dit, est que le patient puisse marcher.
Parce qu'il y a un arrachement des deux ligaments
interesternes. Et puis, il a dit, la plus grave blessure qu'un footballeur puisse subir. Apparemment, l'arrêt serait pour 1 an. Il a quand même 27 ans, si je ne me trompe pas.
Il est jeune, il était en pleine bourre.
Oui, ça, c'est plutôt positif. À cet âge-là, c'est plutôt positif. Franchement, avant la trentaine, il y a quand même beaucoup plus de chances de se remettre plus facilement. Je ne dis pas de revenir bien, mais de se remettre mieux, en tout cas.
Alors, ceux qui étaient dans l'histoire, même si évidemment rien n'est volontaire, ce sont les Merengues. Écoutons Carlo Ancelotti, parce qu'aujourd'hui, où il donnait une conférence de presse d'avant-match européen, n'est-ce pas ? Eh bien, il a eu un petit mot, justement, pour Mokhtar Diakabi.
Avec tout le groupe, nous sommes en contact étroit avec Mokhtar Diakabi. Nous avons parlé avec lui. Nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé. Mais nous sommes tous convaincus qu'avec de la patience, il reviendra. Les blessures dans le football sont assez fréquentes. Je pense qu'il pourra revenir sur un terrain. Nous lui souhaitons vraiment le meilleur.
Alors, il leur souhaite le meilleur, vous l'avez entendu, Mister Carlo. On a appris aussi que Diakabi allait être opéré, et ça sera jeudi prochain, ça sera du côté de Lyon, opéré donc de cette luxation. Eric, justement, on disait, terrible, comment revenir ? On se souvient, par exemple, Van Dijk, quand il a cette grosse blessure, on se souvient d'autres joueurs. Après, on dit, ils n'osent plus. Ils veulent plus mettre le pied, ils veulent plus, bon, tout ce qu'on entend. L'appréhension pour un joueur qui a déjà 27 ans, est-ce que ça sera trop dur de revenir ?
En fait, ça dépend de la nature du joueur. C'est-à-dire que si c'est déjà un gars qui a l'habitude d'aller dans les duels et ça disparaît pas du jour au lendemain, même s'il y a toujours une appréhension, bien sûr, évidemment, mais. Franchement, une fois que vous avez retrouvé tout ce qu'il faut en termes de mobilité, en termes d'élasticité du genou, je pense que à partir du moment où il n'y a plus d'inquiétude, vous pensez plus à ça.
Donc, on sait ce qu'on a
exactement.
On a un programme.
À partir du moment
que
le protocole se passe bien et que vous revenez au fur et à mesure et que tout ce passage-là fait que psychologiquement ça s'efface au fur et à mesure. Et après, il n'y aura pas de. Alors, peut-être dans des petits duels où quand il va y avoir un choc, on va se dire ah, mais après ça passe. Et après, une fois que c'est parti dans la compétition, il n'y a plus ça.
Sûr, vous parliez de l'âge. Là, en l'occurrence, Van Dijk, il a mis beaucoup de temps, quasiment un an, pour revenir à son meilleur niveau. Il avait plus de 30 ans quand il a la blessure. Et puis, c'est quelqu'un qui est musculairement, ouais, qui a une masse. Quoi. Donc, on dit souvent que c'est plus compliqué quand il y a une masse musculaire importante.
Mais
aujourd'hui, les soins, les opérations au niveau du genou ont quand même énormément changé en 20 ans.
Ouais.
Et moi, j'aimerais bien avoir un deuxième avis que le médecin de Séville, avoir un vrai spécialiste du genou, comme il y en a à Lyon, en Strasbourg, en France.
Ouais, parce que là, c'est peut-être un généraliste.
Ouais, non, mais pas généraliste, mais
c'est un traumatologue.
Il y a quand même des grands spécialistes du genou et il y a des soins qui ont évolué et qui, à mon avis, doivent lui permettre de rejouer.
Il se fait opérer à Lyon parce qu'il est lyonnais.
La question, c'est que c'est une blessure assez rare, visiblement, la plus grave qui soit dans le football. Et c'est là, est-ce qu'il y a vraiment un danger de ne pas pouvoir rejouer, quoi?
Il a été sous observation pendant 48 heures, quand même, dans cet hôpital. Alors,
il ne faut pas se tromper dans le diagnostic.
S'il va à Lyon, c'est aussi parce que d'autres joueurs l'ont précédé et ont été opérés là-bas. Jeffrey Nanedali, Adélaïde, on s'en souvient.
Qui a Molenbeek aujourd'hui, qui a vu sa carrière complètement être en partie anéanti. C'est les espoirs confondés sur lui.
Exactement.
Aujourd'hui, il est encore joueur professionnel, mais à un niveau en deçà, mais vraiment en deçà de son potentiel initial.
Mmh. Il y a la lyonnaise aussi, la joueuse alors là de l'OL, Gridje Mbok,
défenseuse centrale de l'équipe de France,
la même blessure. Et puis Yann Masson, qui est un défenseur
qui est passé par Dunkerque et Saint-Etienne. Un bon joueur latéral droit aussi qui a aussi un peu disparu de la surface.
Mais moi, je me souviens de Nabil Fekir, par exemple, c'était moins grave en plus.
Nabil Fekir, il y avait le même problème de la musculature du corps
et du genou.
Il n'y a pas que ça.
Et on ne les voit pas revenir vraiment, même si Fekir, il fait les belles heures du Betis Séville. Mais
il s'est un peu éloigné du très haut niveau qu'on attendait.
Et notamment de la Ligue de France.
Pour les tops, c'est fatal. Pour les tops, c'est fatal.
Non, mais après,
pour les joueurs intermédiaires, moins.
Après, ça dépend de ta nature aussi physiologique. C'est-à-dire que comment tu te remets. Il y a des gens qui se remettent facilement et d'autres qui mettent plus de temps à se remettre. Donc, il y a le côté psychologique, il y a le côté mécanique.
Et puis, la loterie,
y a le côté surtout
génétique.
Génétique. Si jamais tu ne te remets pas aussi facilement que ça, ça dure, là, ça peut être plus difficile parce que tu te dis est-ce que je vais quand même revenir à un moment donné ou pas, et peut-être que là tu gamberges un peu plus.
Et le grade de la blessure, parce que je me souviens de discussion avec Thierry Laurent, l'ancien kiné de Chelsea, qui m'expliquait les croisés aujourd'hui ça veut rien dire en fait. Il y a plein de grades différents. Et en l'occurrence, Ibrahimovic a eu cette blessure-là à Manchester United. Il a déjà 32 ou 33 ans, facile, quand il a United. Il a cette blessure-là. Il marche sur le terrain pour rentrer sur le banc. Il n'a aucune souffrance. Et en 5 mois et demi, 6 mois, il est de retour. Et on l'a vu, il a rejoué à un niveau, notamment au Milan, quelques années après, à un super niveau.
Ça dépend de la musculature.
Donc, ça dépend de plein de choses.
Mm. Ouais, parce que quand tu te fais les croisés, par exemple, Weyer, quand il était à Lyon, il ne s'était pas fait opérer. Ils avaient juste simplement compensé musculairement.
Avec les cuisses.
Donc après, ça dépend de la nature du joueur aussi. Hein.
Ça dépend peut-être aussi du club aussi, parce que je pense à Van Dijk toujours. C'est vrai qu'ils lui ont donné un an pour revenir à son meilleur niveau.
Je trouve qu'au contraire, ils ont un peu trop forcé son retour. Il a beaucoup joué durant l'année qui a suivi son retour la compétition, et je pense qu'il en a subi les conséquences parce qu'il n'était vraiment pas à son niveau. Il avait perdu en vitesse, en explosivité, mais je suis d'accord. Il était
mais
dans
ils
un
l'ont
grand
pas
club.
Envoyé à Molenbeek,
après Mokhtar,
quoi.
Mokhtar au départ, il est formé à Lyon, c'est un joueur moyen, c'est-à-dire que il est titularisé en Ligue 1. Bon, il fait pas l'affaire. Il part à Valence, qui est un club un peu business, parce que c'est un jeune à fort potentiel. Et moi, il me surprend agréablement parce qu'il finit par s'installer et devenir un vrai bon joueur. Il vous rappelait à juste titre. Il a été, c'est un gars aujourd'hui qui incarne la sélection de Guinée, qui a été convaincu par Kaba Diawara parce que c'est un binational, mais qui est aujourd'hui installé dans les esprits, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai bon joueur. Et là, malheureusement, ça lui tombe dessus. Même s'il arrive à jouer
dans un an.
Et puis là, en mois de juin, il y avait les matchs éliminatoires Coupe du Monde parce qu'il joue en Algérie, face à l'Algérie. Bon, je crois qu'il joue avec Janvier en charnière centrale. Faudra voir par qui va être remplacé par Kaba Diawara et le Sili National. C'est un coup dur pour Valence, mais c'est aussi un gros coup dur pour la Guinée.
Bien sûr, évidemment.
Alors restons sur les blessures. Il est gravement blessé. Alors là, c'était en Ligue 2 entre Bordeaux et Guingamp. Albert Ellis, ce joueur hondurien, victime d'un choc à la tête. Il est sorti du coma où il avait été plongé quelques jours, mais il est toujours hospitalisé. Un traumatisme qui pourrait laisser de graves séquelles, à tel point que la suite de sa carrière n'est jamais évoquée pour l'instant. Mais ça, c'est aussi, et heureusement, la prudence des médecins. En tout cas, coïncidemment, le board, comme on dit, hein, qui s'était réuni en Écosse ces derniers jours, vient au secours des cas de protocole commotion. Ils autorisent désormais, Bruno, le changement définitif lorsque un joueur est victime de commotion, et ça, avec l'assentiment de la FIFA, ça sera
ça a été validé, ça.
En test à partir de... Ah, oui, mais en général, quand le board intervient... Déjà... Alors, autant le carton bleu, ils ont eu des cris d'orfraie du côté de la FIFA. Mais là, on a vu Gianni Infantino s'exprimer là-dessus. Alors, ça sera un changement définitif en plus, parfois, mais c'est vrai que c'est aussi nécessaire.
Mais il était temps, surtout. Moi, j'ai envie de dire, il était temps, parce que moi, j'ai souvenir d'un accident, Hugo Lloris, à Tottenham, en 2013. Il jouait avec Tottenham à Everton. Il prend un coup de genou dans la tête, il perd connaissance. Ils lui font faire les tests sur le bord de la touche pour essayer de le... Lui, il veut absolument reprendre. Quand il reprend ses esprits, il veut rejouer. Ils lui font faire les tests et ils le font rejouer. Et au bout de quelques minutes après, il est obligé de ressortir parce qu'il n'est pas bien. Et à cette époque-là, il y a eu un énorme scandale en Angleterre. Parce qu'on avait dit,
il n'a pas joué pendant longtemps.
Et après, il a observé 15 jours de repos obligatoire.
Il a manqué.
Mais à l'époque,
matchs.
Ça avait fait débat. On avait dit, quand il y a une commotion cérébrale, il faut que le joueur sorte. Et ça devait être appliqué ensuite par un questionnaire précis de 4 ou 5 questions. Et c'était en 2013. On est en 2024. Et on prend seulement la décision de faire un remplacement automatique quand il y a ce genre de blessure.
Eh bien, il y a eu une histoire très récente, c'est avec Sofiane Amazian qu'on en parlait, celle de Umtiti à Lille récemment.
Oui.
Il est blessé, il a un choc violent à la tête à la suite d'un contact avec le Japonais. Un autre Japonais, je ne vous demanderai pas son prénom, Eric.
Oh non, je ne dis pas ce que
c'est. Sinon, vous allez chercher sur votre téléphone.
Nakamura ou Ito.
Ito,
ouais.
Ito, oui, bien sûr.
Et au bout de 3 minutes 15, il revient. Et en fait, il s'est trouvé mal à la mi-temps et ils ont été obligés de le changer. Ouais. Et là aussi, la gestion du cas a beaucoup fait
non, mais
parler.
C'est une énorme erreur.
Et c'est vrai que... Ouais. Mais on se souvient tous, j'imagine, du joueur allemand de finale de la Coupe du Monde en 2014.
Mustapha s'appelle... Mustafi ?
Non, Christophe Kramer,
ah,
allemand,
oui, Kramer, ouais.
Qui a un coup...
Parce qu'il y a Mustafi qui joue à droite.
Il a un coup. Lui aussi est victime d'une commotion à la tête, d'un traumatisme. Et il va rentrer à la mi-temps. Et je me souviens l'avoir lu, notamment dans SoFoot. Il dit, c'est quoi le score et c'est quel match qu'on dispute. C'est une finale de Coupe du Monde.
Qui fait partie des questions qu'on pose à
un joueur. Et
d'ailleurs,
ils le sortent à la mi-temps. Hein.
Ça fait partie des questions qu'on pose à un joueur qui vient d'avoir une commotion. Où est-ce que tu te trouves? Quel match? Contre quelle équipe tu joues? Quel est le score du match? Et à partir de là, des gens voient si le joueur est conscient ou pas, ou s'il a vraiment pris un gros choc. Mais encore, là, on parlait de finale 2014. Lloris, c'était 2013. On est en 2024. Comment c'est pas décidé avant? Comment, sur une question aussi importante et dangereuse, on décide pas en 2 ou 3 ans d'appliquer ce règlement?
Il y a eu une autre chose aussi, c'est aux États-Unis où ils veulent interdire les têtes des enfants à cause de ça.
Bah, c'est en Angleterre aussi,
je crois.
Dans les écoles de foot pour les petits.
Moins de 7 ans. Mais ça serait une bonne idée. Hein, parce que moi, gamin, quand je jouais à Nice, la tête, j'ai esquivé. Hein.
Moi, je vous donne juste un exemple de ce que ça peut représenter. Un dégagement de gardien. Vous prenez le ballon, monte très haut et redescend très vite. Et quand tu le prends de la tête, je peux te dire que
tu le sens.
Si tu ne le prends pas bien et si tu n'es pas bon de la tête et tu ne sais pas faire les têtes, tu prends, c'est comme si tu prenais un sac sur la tête,
le sommet du crâne. Quand vous ratez, vous ne le prenez pas du front.
C'est un dégagement en l'air. Si c'est une frappe à bout portant dans la tête, c'est la même chose.
Moi, c'est un projectile. En fait, ça devient un projectile.
Exactement.
En tout cas, pour le board, il s'agit d'un progrès considérable.
Bon,
et la FIFA va lancer donc sa campagne de sensibilisation aux symptômes de commotion. Et donc, cette expérience, maintenant, il y aura un remplacement. Et c'est un bien pour les joueurs. Et il faut les chouchouter, les joueurs. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Eric. Eric.
Merci. Bah, merci. On verra. Hein. On va se parler tout à l'heure.
Bon match à tous. Et on se retrouve demain pour étudier ce match du Paris Saint-Germain et sa possible qualification. Merci à tous et à demain.